Alors, je ne sais pas si ce que je vais vous dire, ce que vous allez entendre ce matin, vous allez le considérer comme inspiré, mais ce que j'ai trouvé, en tout cas, dans les chants qui ont été choisis, dans les paroles qui ont été dites, dans les prières, c'était vraiment inspiré par rapport à ce qui va être dit maintenant. Il y a vraiment une corrélation, comme une osmose de ce qui... de ce qui sera dû. Alors, lors de ma précédente intervention, en introduction, j'avais mis en avant des phrases de la Bible qui pouvaient résumer en peu de mots le message biblique. Alors, évidemment, bien sûr, pour cela, il faut aller dans le fond des mots, dans la profonde signification de chacun des mots, dans la substance moelle de ces mots-là. C'était le cas, par exemple, de « l'Éternel est mon berger ». Voilà, donc si on travaille chacun des mots, on va assez loin dans la méditation. Chacun des mots a une portée considérable. Autre exemple, voici, je l'avais cité, hein, je recite en fait ce que j'avais dit alors. Voici venir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même chose. Ou encore, Dieu a tant aimé le monde, on sait, on connaît la suite. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Chacune de ces phrases ou de ces mots doivent être placées évidemment dans le contexte historico-grammatical de ceux qui les ont dites, pour ne pas prendre le risque d'en tordre le sens ou d'une déviation. Il y a un sujet dans l'Ancien Testament qui tend à aller dans le même sens que ces phrases qu'on peut grappiller de ci et de là. En définitive, ce qui est remarquable, c'est l'homogénéité de la parole de Dieu. Alors ce matin, je vais évoquer avec vous l'histoire d'une pierre. Une pierre, oui. Alors, je ne vous en dis pas davantage pour le moment. Alors, je suppose que certains doivent commencer à tourner en boucle dans leur tête, mais de quelle pierre veut-il parler? N'y passez pas trop de temps, vous serez peut-être étonnés. Parce que dans la Bible, effectivement, il y a beaucoup de sujets ou d'histoires qui sont relatifs à des pierres. Le récit biblique de l'Ancien Testament présente plusieurs alliances entre Dieu et les hommes. Ces alliances sont la manifestation de la grâce extraordinaire de Dieu pour sa création et ses créatures que nous sommes. J'ai répertorié dans la Bible 8 alliances. Je ne dis pas que c'est exhaustif, mais ces 8 alliances montrent le désir de Dieu au cours de l'histoire de se constituer un peuple d'adorateurs. D'ailleurs, ces alliances ne sont contractées ou plutôt accordées qu'à l'attention de son véritable peuple. C'est là son grand dessein, c'est-à-dire son plan pour lui. En fait, chaque alliance est une initiative divine et l'homme n'a rien à en redire. C'est pourquoi le terme d'alliance qui normalement se traite entre deux parties, c'est ce que humainement l'on conçoit, doit être compris comme une promesse, un accomplissement à venir. Une alliance est un accord légal entre Dieu et l'homme, immuable et imposé par Dieu, qui stipule les conditions de leur relation. Et en filigrane de ces accords légaux, un ciment, une promesse dite tripartite. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, et j'habiterai au milieu de vous. Dieu n'a eu de cesse de marteler cette promesse. Je serai votre Dieu, Vous serez mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. Chaque alliance converge vers un seul but, accomplir le dessein de Dieu en Christ, qui devient par lui seul une seule alliance, la nouvelle alliance annoncée par les prophètes. Au-delà de cet aspect qui semble quelque peu administratif, il y a une réalité. Dieu fait grâce, il veut sauver, et il veut habiter avec ceux qu'il veut sauver. Cette réalité s'est réalisée pleinement en Jésus-Christ. Il est l'alliance nouvelle annoncée et attendue par son peuple. Et cette alliance regroupe toutes les alliances faites à Israël, depuis Abraham et même avant. Sa promesse de rédemption entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit se réalise en Christ. Sa promesse à Abraham d'un peuple constitué de toute nation, de toute langue, se réalise en Christ. Sa promesse administrative à Moïse de bénédiction et de malédiction, d'un accomplissement de la loi et des 10 commandements, se réalise en Christ. Sa promesse à David d'une descendance royale perpétuelle se réalise en Christ. Sa promesse lévitique d'un sacerdoce perpétuel se réalise en Christ, qui est grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek, Paul en a parlé dans ses écrits. On le trouve aussi, ce personnage, dans l'Ancien Testament, quand il rencontre Abraham. De la lignée de Judas, Jésus a mis fin au sacerdoce lévitique en étant lui-même le grand prêtre, le sacrificateur et la victime expiatoire. Pour dire simple, et cela a été dit tout à l'heure, tout est accompli en Christ, et c'est lui-même qui l'a dit sur la croix. On trouve ça dans Jean chapitre 19, verset 30. Jésus est digne d'adoration. C'est le titre de cette méditation. Mais quelles sont les vérités essentielles sur Jésus-Christ ? Une petite parenthèse avant de continuer. Ce qui me subjugue, c'est que le maître de l'univers, comme l'appellent les prophètes, ils l'appellent le maître de l'univers dans leurs écrits, le Dieu créateur omnipotent, omniscient, nous parle, te parle, me parle, il veut habiter avec nous. Il veut nous rendre participants à son omniscience, son omnipotence. Ce qu'il a, il nous le donne. Digne d'adoration, quelles sont les vérités essentielles sur Jésus-Christ ? Il est Dieu manifesté dans la chair. Ensuite, il est le sauveur des hommes. Et il est le roi qui vient. Il est Dieu manifesté dans la chair. Voici la jeune fille vierge sera enceinte. Et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. C'est encore là, comme un leitmotiv de la pensée globale de Dieu, si je peux dire, Dieu avec nous. Dieu ne lâche pas le morceau, ce qu'il a dit à Abraham, à ses successeurs, à Moïse, à David, aux prophètes, il le répète en Christ. Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Nous connaissons bien ce texte que l'évangéliste Matthieu reprend, d'ailleurs de ce que le prophète Ésaïe a annoncé à la dynastie de David, au chapitre 7, verset 14. De Matthieu, 700 ans plus tôt. Avant que Matthieu ne rappelle Ésaïe, l'apôtre Paul disait déjà aux Galates, « Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il envoya son fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. » Autre traduction. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. On voit ça dans Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Ces deux passages en particulier, d'abord celui de Paul et ensuite de Matthieu, nous parlent tout simplement de cette alliance de rédemption que j'évoquais au début et voulue par Dieu lui-même, en fait que la Trinité a voulu. Dans cette alliance, le Père s'est engagé à donner au Fils un peuple qu'il rachèterait pour qu'il lui appartienne. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Jean chapitre 17, verset 2-6. C'est la prière sacerdotale. Le Père s'est engagé à envoyer le Fils pour être le représentant de son peuple. Alors nous connaissons tous Jean 3,16. Mais il y a aussi Romain. Qui ne connaît pas Jean 3,16? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a aussi Romains 5,19. En effet, tout comme la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Le Père s'est engagé à lui former un corps humain. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On voit ça dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Ou encore, c'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Hébreux chapitre 10, verset 5. Je pense que Jésus pensait déjà, sans doute, à ce moment-là, à son propre corps de fils d'homme, qui sera offert en sacrifice et offrande pour expier les péchés. Le Père s'est engagé à le considérer comme le représentant de ceux qu'il avait rachetés. Hébreux chapitre 9, verset 24. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, mais dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Le Père s'est engagé à lui donner toute autorité dans les cieux et sur la terre, y compris l'autorité de répandre le Saint-Esprit avec puissance pour appliquer la rédemption à son peuple. On voit ça dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et s'agissant du Saint-Esprit, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit Jésus, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Dans cette alliance, le Fils, quant à lui, a accepté de venir dans le monde en tant qu'homme et de vivre sous la loi de Moïse. On a déjà lu Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi. Le Fils a accepté d'obéir parfaitement à tous les commandements du Père. Hébreux chapitre 10, versets 7 à 9. Christ dit, « Me voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Le Fils a accepté de se rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il a aussi accepté de garder ceux que le Père lui avait donnés, afin qu'aucun d'eux ne se perde. Jésus dit, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. » À part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Jean chapitre 17, verset 12. Le Saint-Esprit a accepté de faire la volonté du Père et de fortifier le Christ afin qu'il accomplisse son ministère terrestre. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre dans le ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Matthieu chapitre 3, verset 16. Le Saint-Esprit a accepté d'appliquer les fruits de l'œuvre rédemptrice du Christ. Œuvre rédemptrice du Christ à son peuple, après que celui-ci soit retourné au ciel. Jésus dit, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Notre deuxième point. Jésus est le sauveur des hommes. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. C'est l'apôtre Paul qui dit cela à Timothée. 1800 ans avant sa venue, Job disait, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19, verset 25. Dans une réponse à ses amis, Job dit, « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. » Étonnant, n'est-ce pas? C'est bien là une affirmation forte concernant l'espérance de la résurrection. Et je le répète, Job en avait conscience près de deux millénaires avant la venue du Christ. Alors, on peut évoquer ici l'alliance de grâce transmise à Abraham. Promesse lui a été faite d'être l'ancêtre d'un grand peuple de toute nation. Pour appartenir à ce peuple, Dieu a demandé à Abraham de circoncire tout garçon. On retrouve ça dans Genèse chapitre 17, versets 10 et 14. La circoncision était le signe visible d'appartenance à ce peuple naissant, dont Dieu voulait en faire des adorateurs. Déjà à ce moment-là, la circoncision de la chair était le signe d'une circoncision du cœur tourné vers Dieu. Comme d'ailleurs le baptême est le signe d'un engagement de suivre Christ et donc d'un cœur tourné vers lui, un désengagement ou une volonté de plus suivre Christ rend vain le baptême qui n'est plus alors significatif d'un cœur pour Dieu. Dieu recherche les cœurs des adorateurs, des cœurs des personnes. Comme la circoncision n'est rien sans un cœur pour Dieu, le baptême n'est rien sans un cœur pour Dieu. En Jésus-Christ, Dieu sauve les pécheurs repentants pour les intégrer à son peuple. Cette circoncision du cœur s'appelle la foi, la confiance. Le juste vivra par la foi. Paul aux Corinthiens, « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Si vous le retenez, vous le retenez dans les termes où je vous les ai annoncés. Autrement, votre foi aurait été inutile. Quels sont ces termes dont parle Paul ? Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite il est apparu, de nombreux témoins l'ont vu ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Quel autre témoignage pourrions-nous donner à quelqu'un qui ne croit pas en l'accompagnant de notre manière de vivre ? Certains dans l'entourage des Corinthiens contestaient la résurrection des morts. Si Christ n'est pas ressuscité, alors votre foi est vaine et inutile. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et à nouveau, Paul enfonce le clou. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Christ est le sauveur des hommes parce qu'il est mort pour leurs péchés. Il les a expiés sur la croix une fois pour toutes. Mais cela, il ne l'a pas fait pour cette vie ici-bas. Il ne l'a pas fait pour ici-bas. Non, c'est pour l'éternité qu'il l'a fait. C'est bien parce qu'il est ressuscité d'entre les morts que nous ressusciterons, nous aussi, pour toujours. C'est pas une bonne nouvelle ? C'est pas une bonne nouvelle ? C'est pas une bonne nouvelle ? Jean chapitre 3, versets 35 à 36. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Oui, Jésus est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs qui croient en lui. Notre troisième point. Ah, j'oublie ça. Notre troisième point. Il est le roi qui vient. Le septième ange sonna de la trompette et des voix retentirent dans le ciel. Le royaume du monde a passé maintenant aux mains de notre Seigneur et de son Christ. Il règnera éternellement. On trouve ça dans Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Vous vous souvenez, je suppose, de ce que j'ai dit en tout début concernant la pierre. Bien. Il y en a qui suivent. Non, tout le monde suit. Alors, je ne sais pas si vous êtes restés sur votre interrogation concernant une pierre. Est-ce que certains d'entre vous ont une idée de quelle pierre il s'agit ?
La pierre rejetée.
C'est pas tout à fait ça, mais ça montre en tout cas qu'il y a beaucoup de pierres dans la Bible. Pardon ?
La pierre
de Daniel 7. Voilà. Voilà. C'est effectivement cette pierre-là qui est un symbole marquant de l'œuvre de Christ. On va y venir, mais avant cela, il nous faut parler de l'alliance faite à David. En parlant de David, la pierre, c'est pas celle de la fronde, encore une autre pierre, contre Goliath. 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 29. Je te ferai une maison. C'est l'alliance davidique. L'Éternel annonce à David par la bouche du prophète Nathan qu'il lui constituera une dynastie. 2 Samuel chapitre 7 verset 11. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Chapitre 16, verset 16 de 2 Samuel. On ne saurait sous-estimer l'importance de ce texte ou de l'alliance qu'il contient. Tout le reste de la révélation biblique, même et surtout dans le Nouveau Testament, sera fondé sur cette alliance. Même juste avant la fin de l'Apocalypse, on trouve ces mots. « Je suis le rejeton et la postérité de David ». l'étoile brillante du matin. Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Alors cette pierre, comme cela a été dit, je vous invite à lire dans Daniel, chapitre 2, verset 44 à 45. Daniel, chapitre 2, verset 44 à 45. Alors le contexte en peu de mots. Nabuchodonosor, roi de Babylone, a eu un songe dont il demande qu'il soit révélé par celui qui en donnera l'explication. Il n'a jamais demandé ça à ses sages. Ça paraît impossible. Il demande à ce que celui qui en donnera l'explication en donne aussi la révélation. Seul Daniel en est capable. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu du temps, il a demandé du temps au roi. Lui et ses amis ont prié, etc. Le songe concerne les différents empires qui vont se succéder après Nabuchodonosor. Et Daniel dit ceci. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est authentique. Oui, les empires de ce monde passeront, mais la petite pierre de Daniel remplira la terre. On voit ça dans Daniel chapitre 2, verset 35. Jésus est le roi qui vient. Annoncé dans les temps anciens, il est le roi de ce royaume éternel. Annoncé par l'alliance davidique et aussi par Daniel à un roi païen, alors que plus aucun royaume d'Israël et Juda n'existait car déporté en exil à cause de leur désobéissance. Voilà ce que l'Éternel fait à l'ignorance des nations de ce monde. Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il l'a répandu sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ, annoncé par Dieu lui-même depuis des siècles, manifesté dans la chair, sauveur des hommes, Christ est le roi qui vient. »